France Musique. Musique et moi, une émission en partenariat avec le magazine Grazia. Musique et moi.
Christophe Onodibio.
Elsa Boublil.
Memento Mori.
C'est sur ce feu d'artifice d'Éric Satie, en parabole sous forme de réponse à votre phrase mantra, nous pourrions dire, Memento Mori, cette formule du christianisme médiéval qui signifie dans sa traduction « souviens-toi que tu vas mourir », mais que vous voyez exactement de l'autre côté de la pensée, je crois, Christophe Onodibio. Nous accueillons donc sur cette musique feu d'artifice, bonjour.
Oui, bonjour. Oui, je le vois, oui, « souviens-toi que tu vas mourir », moi je le traduirais ou je l'interpréterais par « n'oublie pas de vivre ».
Voilà. Une sorte de carpe diem à l'envers.
Exactement. N'oublie pas, voilà. Ça peut s'arrêter, ça va s'arrêter d'ailleurs certainement. Donc, ne l'oublie pas et garde ça en tête pour agir.
Ouais, comme ces feux d'artifice qui, dans leur explosion pianistique, nous font nous sentir vivants. En fait, c'est ça, c'est avoir la conscience en permanence qu'on est vivant.
Oui, en fait, au départ, c'est vrai, vous avez mentionné le christianisme médiéval. En fait, au départ, c'est plutôt antique. Et il est dit, enfin, j'étais pas là, mais il est dit que c'était ce que... Dans les triomphes des généraux, à Rome, en fait, il y avait toujours un esclave qui rappelait aux grands triomphateurs qui avaient tendance à prendre... la grosse tête, la très grosse tête, n'oublie pas en fait que tu es un homme, que tu es mortel. Et en fait, le christianisme s'est branché là-dessus, mais au fond, c'est la tradition. Alors c'est double tradition, à la fois tu es mortel, reste humble, mais c'est aussi tu es mortel, cueille le jour, carpe diem. Et alors il y a une formule que j'aime encore plus d'ailleurs, latine, qui va dans votre sens par rapport au carpe diem, c'est dans les odes d'Horace. Nunc est bibendum. Nunc pede libero pulsanda telus. Ça veut dire maintenant il faut boire, maintenant il faut frapper la terre d'un pied léger. Comme on va parler de musique et de danse, ça convient très bien. C'est-à-dire, voilà, prenons chaque instant. C'est un mantra, je ne dis pas que j'y arrive.
Vous êtes romancier, journaliste, producteur sur France Culture du Temps des Écrivains, le samedi à 17h, donc on vous salue et on va vous écouter. Vous êtes directeur adjoint du Point. Et vous êtes avec nous ce matin pour nous faire découvrir donc votre univers musical classique à travers des moments clés de votre vie. Et c'est bien que vous soyez là parce qu'on ne vous connaît pas du tout dans ce registre-là, alors que la musique classique vous accompagne quand même depuis l'enfance.
Oui, 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 quand même. Je ne suis pas du tout musicologue, je ne peux pas dire que je sois un grand spécialiste de la musique classique, mais oui, elle m'accompagne. La musique m'accompagne énormément, qu'elle soit classique ou non, mais j'ai la chance d'être en plus rattrapé par mon fils, en fait, qui lui... et musicien, donc je l'ai forcé, etc. Donc je découvre plein de choses aussi grâce à lui. Donc c'est merveilleux cette transmission à l'envers.
On sent la fierté du paternel, hein, quand même.
Thank you.
Jean-Philippe Collard et Michel Béroff interprètent En bateau, cette petite suite pour piano à quatre mains de Claude Debussy. Pour évoquer votre enfance, Christophe Onodibio, l'enfance au Havre.
Oui, enfance normande, enfance au Havre. Alors c'est drôle parce que d'ailleurs je sais pas pourquoi je dis évidemment, mais j'adore Debussy, j'aurais pu parler de la mer, mais il y a certains titres aussi qu'on va chercher ou qu'on va écouter en fonction de leur titre précisément. Et En bateau, oui, ça me rappelle les étés du Havre, où on avait un petit bateau d'ailleurs où on allait pêcher un petit peu quelques poissons. Et c'est vrai que la vue que j'avais depuis ce bateau, j'aimais bien me mettre à l'avant, c'était un tout petit truc de 3 mètres. Sorte de barque, et il y avait un endroit où je pouvais me mettre devant avec les jambes un peu dans l'eau, et je voyais ce paysage que j'adore, paysage de Haute-Normandie, du Havre, avec d'abord ces plats, et puis quand on arrive vers Sainte-Adresse, le cap de la Hève, la falaise commence, et en fait moi j'habitais à 10 km du Havre, tout en haut des falaises, et ces falaises de craie magnifiques restent évidemment un souvenir. Alors c'est drôle parce que j'ai des souvenirs évidemment, peut-être parce que c'était les seuls moments où on sortait le bateau de soleil, puisque c'était pas toujours le climat type. Mais c'est vrai, et puis ce rythme, voilà, la plénitude. Oui, j'allais dire la plénitude zénitale, le soleil, l'azur, la mer. Ouais. Je peux pas vivre sans la mer. Ouais.
Cette En bateau vous évoque complètement ces jambes qui clapotent.
Ouais, c'est ça. J'aurais pu parler aussi du sang des maquereaux qui étaient pêchés, qui gigotaient au fond du bateau, mais ça serait un petit peu moins. Je sais pas
c'est
si ça va avec Debussy.
Mais,
mais c'était la vie, c'était la nature, c'était. Non, j'ai adoré ça. J'ai adoré cette enfance et encore aujourd'hui, dès que je suis un peu trop éloigné de la mer, comme une plante, je me dessèche.
Ah ouais, voilà. C'est vrai. Et donc cette enfance au Havre avec des parents qui faisaient quoi, Christophe?
Mon père était géologue, ma mère était institutrice et j'allais justement les falaises dont je parle. Là, je les ai beaucoup, j'ai beaucoup marché sur ces falaises, dans ces falaises, par des petits chemins qu'on appelle des valeuses qui descendent donc sur la plage de Galets. Mais je suis beaucoup attaché aussi aux falaises avec mon père parce qu'on allait chercher des fossiles.
Ah bah oui,
et c'est
géologue.
Et voilà, exactement, donc les ammonites magnifiques enroulées sur elles-mêmes, des nautiles qu'on trouvait parfois, des petites dents de requin. Et c'était des petits trésors comme ça. J'avais une petite boîte en fait quand j'étais enfant où je mettais mes plus beaux, donc j'avais une dent de requin, j'avais une petite, quand je trouvais aussi, parce que la mer ramenait énormément de choses aussi qui venaient du courant, donc il y avait parfois des petites constructions, des petites planches de bois, des petits morceaux de bois qui avaient une forme un peu sculptée par les éléments, les fossiles. Et j'avais cette petite boîte aussi dans ma chambre. Voilà. Et
la recherche m'aidait de l'histoire ancienne, c'est ça
Exactement. L'archéologie déjà, je voulais être archéologue.
Ah bon, d'accord. Donc vous avez été archéologue de la littérature. Enfin,
un petit
si
peu.
On peut dire les choses comme ça.
Si vous voulez. Voilà.
La danse macabre, opus 40 de Camille Saint-Saëns, interprété par Herman Krebers avec l'Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam sous la direction de Bernard Haitink. Alors, c'est un poème symphonique qui est né 100 ans avant votre naissance, c'est ça ?
Oui, c'est drôle. Oui, parce que bon, pour cette émission, effectivement, on se plonge un peu dans sa mémoire. On essaie de trouver. C'est dur de faire une liste, hein, d'ailleurs, des titres qu'on aime. Et je me suis aperçu que oui, il a été joué pour la première fois à Paris le 24 janvier 1875. C'est pas pour ça que j'ai choisi. Tout à l'heure, on parlait du Havre, et c'est vrai que je mets un point d'honneur à chaque fois d'en plonger, d'en croire au merveilleux, dans Biermann. Il me semble. Non, je suis même pas sûr de ce que pour Biermann, mais pour les deux autres, oui. De parler du Havre, de parler de ses ambiances, de mer, de falaises, de ce soleil gris aussi, et du côté très très debussien en fait, voilà, de cette enfance. Et la danse macabre, je crois que c'est l'un des premiers vraiment morceaux musicaux que j'ai étudié. C'était en classe de musique, j'étais en sixième au lycée Jean Prévost, et je me souviens de l'ambiance du cours de musique qui était assez chahuteuse.
Et c'était un long problème pendant de longues années.
Exactement, pour beaucoup, exactement. Alors que c'était passionnant. Et je me souviens d'avoir fait l'effort quand même d'écouter de ce que racontait le professeur de musique. On était assez peu disciplinés, c'est dommage. Mais ça dit le côté flûte à bec en sixième, c'était aussi un peu... Je crois que ça a bien changé maintenant et tant mieux. Mais ce prof était très bien, qui me pardonne s'il écoute peut-être. Mais je ne me souviens plus, ma mémoire, comme c'est le Havre, il y a un peu de brume. Donc il y a un peu de brume dans ma tête aussi. Mais je me souviens de ce cours, je me souviens de son visage. Et je me souviens qu'il nous avait dit, mais c'est pas grave, vous connaissez rien à la musique, mais fermez les yeux et imaginez ce qui se passe.
Et alors vous avez imaginé
Et justement, je voyais par exemple le xylophone, et je me souviens de lui avoir dit, mais le xylophone, est-ce que c'est pas les os qui s'entrechoquent? Et ce que j'aimais, et c'est un souvenir, c'est pour ça quand on disait Memento Mori tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est assez joyeux ce qu'on vient d'écouter. Ça s'appelle pourtant la danse macabre, mais on a l'impression qu'en fait, le chat n'est pas là, les souris dansent. D'ailleurs, le coq...
Oui.
Qu'on entend.
Appel à l'ordre à la fin.
Appel à l'ordre, tout devient calme, alors que c'est la fête pendant toute cette nuit, et que chaque instrument joue en fait le rôle, est presque un acteur. La harpe au départ, finalement frappe les 12 coups de minuit. On parlait des xylophones. On a ce violon où on imagine vraiment des squelettes jouant pour faire danser les autres. Et alors, ça vient. Vous avez parlé d'un poème symphonique. Ça vient d'un poème de Henri Casalis, ouais. Les heures sombres, mais encore une fois, égalité, fraternité, hein, c'est le titre de ce poème. Et j'aimerais juste citer les quatre premiers vers pour montrer cette légèreté. Zig et zig et zig, chacun se trémousse, on entend claquer les os des danseurs, un couple lascif s'assoit sur la mousse, comme pour goûter d'anciennes douceurs. Et vous voyez, Memento Mori, souviens-toi que tu vas mourir, bah finalement, la danse macabre nous montre que même quand on est mort, c'est pas fini. La fête est possible, visiblement, en tout cas, en écoutant Camille Saint-Saëns.
En tout cas, c'est aussi c'est une œuvre d'adolescence, puisque ça se passe la nuit.
C'est ça.
Et qu'on fait la fête la nuit, fête. Quoi. C'est le rock du 19e.
Exactement. Thank you.
Jiří Belohlávek dirige l'orchestre de la Philharmonie tchèque de Prague dans ce premier mouvement de la symphonie numéro 9 en mi mineur, opus 95 de Dvorak, dite symphonie du Nouveau Monde. Je crois, Christophe Onodibio, que c'est une œuvre que vous avez dû découvrir, si j'ai bien compris, parce que on va pas l'entendre aujourd'hui, mais Serge Gainsbourg est extrêmement présent dans vos choix musicaux. Dans ce que vous nous avez envoyé, en fait, sont des œuvres que Serge Gainsbourg a adaptées à la chanson. Et je me suis dit, là, en l'écoutant, je me suis dit, bah tiens, en fait, peut-être que c'est comme ça qu'il l'a découvert.
Oui, oui, c'est à travers Initials BB de Gainsbourg, qui est une des chansons que j'aime le plus. Peut-être parce qu'il y a la chanson, effectivement, il a pris le motif de la, d'après la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, de la même manière que dans Lemon Incest, il reprend Tristesse, je crois que c'est Tristesse, hein,
ouais,
de Chopin.
Ouais, l'étude, ouais.
Et en fait, c'est un double emprunt, puisque dans les paroles de Initials BB, elle commence par, vous vous souvenez, cette vision d'un personnage qui est là dans quelques pubs anglais à se morfondre en lisant un livre. Et c'est une reprise du Corbeau d'Edgar Poe, traduit par Baudelaire, que Gainsbourg adorait. Donc on est dans un double emprunt et à la littérature et à la musique. Et Gainsbourg avait cette élégance d'ailleurs de ne pas souligner ses emprunts. Et moi, il y a un mot qui est important et qui me conduit dans ma vie, c'est le mot et la notion de transmission. C'est-à-dire que je pense aussi que la littérature est faite pour transmettre, y compris les vieilles histoires, les mythes antiques pour ce qui me concerne, la mythologie entre autres. Et Gainsbourg est un transmetteur. Chez moi, c'est même un neurotransmetteur, je pense, parce que c'est les dans cette chanson-là, vous avez vraiment exprimé magnifiquement ce qu'est une apparition de l'amour, de l'éros, du désir, avec cette femme, qui est d'ailleurs une femme à l'antique, hein. Il parle de la marque des esclaves à chaque doigt. C'est une vision païenne qui sort de son verre, hein, pratiquement dans ce pub anglais, et qui vient réenchanter le monde qui est autour de lui. Et j'adore ça, et c'est aussi, curieusement, une chanson qui dit à la fois la passion amoureuse, l'éclosion de l'amour, et la fin de cet amour, puisque il raconte évidemment sa passion avec Brigitte Bardot et que Almeria, qui est la fin de la chanson, est la ville qui finalement est la ville de la fin de l'amour de Bibi, de Bébé et de Serge Gainsbourg, puisqu'elle partait tourner donc dans cette ville espagnole avec Sean Connery et que bah, après ça ils ne se reverront plus jamais. En fait, la culture, elle est faite pour nous dire que rien n'est spontané, qu'on est le produit d'une longue histoire. Et donc, c'est ça. La longue histoire, en fait, des artistes et de la création, c'est ça. On prend, on reprend, on réinvente et on transmet. Et ça donne envie de remonter le temps à chaque fois, puisqu'on entend Initials BB et on va chercher chez Dvorak. Et de Dvorak, on pourrait remonter encore le temps.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
C'est d'autant plus amusant, Christophe Onodibio, que l'œuvre en question s'appelle la Symphonie du Nouveau Monde.
Ouais.
Donc on est les yeux braqués sur ce Nouveau Monde qui est le continent américain. Et à la fois, comme vous le disiez, il y a cette transcendance et il y a cette descendance. Et ces ouais. références à notre histoire et à l'histoire. Et c'est ce Nouveau Monde contre cet ancien monde, si je peux dire les choses comme ça. C'est un sujet qui vous intéresse et pas contre, en fait.
Hein, mais exactement.
C'est l'ancien monde qui vous fait lire le nouveau monde, on pourrait
oui,
dire.
Oui, c'est-à-dire que je pense, en fait, que l'ancien monde parle au contemporain, parce que je pense que tous les grands sujets, c'est-à-dire les seuls sujets qui comptent, c'est-à-dire la famille,
l'amour.
La politique, l'économie, l'éthique, la morale, tout ça, évidemment, a été pensé avant nous. Et on serait bien arrogant de penser qu'on a inventé toutes ces problématiques. Et souvent, on a des leçons à tirer de tout cela. Le sens de l'État, hein, par exemple, aussi. D'ailleurs, c'est drôle, on reparle d'hubris, par exemple, pour certains personnages politiques aujourd'hui. Et l'hubris, c'est quoi? C'est l'orgueil qui était puni par les dieux, l'orgueil surhumain qui fait que les dieux, à un moment, se fâchent. Et ça, on utilise, on convoque, en fait, sans arrêt des notions antiques pour expliquer le contemporain, parce que il y a une liaison. C'est exactement ce qu'on disait Gainsbourg, Dvorak, comme les musiciens, en fait. Les artistes, les hommes et les femmes, évidemment, tissent un lien mental, un lien existentiel extrêmement profond. Tout ça ne se perd pas. Et ça me permet aussi de voilà, trouver une distance critique aussi face à ce qu'on prend pour du contemporain et qui est au fond de l'universel, tout simplement.
Thank you.
Aldo Ciccolini, dans cette gnossienne pour piano numéro 3 d'Eric Satie, on parlait du passé qui éclaire le présent. Voilà, là, avec ces pages d'Eric Satie, on est plongé dans une forme d'orientalisme, Christophe Onodibio, ou en tout cas dans une forme de mémoire.
Oui, une forme de mémoire. Moi, je pense vraiment, quand je l'écoute, alors... Lui, il est vraiment important parce que ça fait partie. Enfin, c'est si je devais choisir une musique qui évoque ce qu'est la littérature, l'envie d'écrire, ce pourquoi on écrit, ça serait ça. Ça serait une pièce de Satie et celle-là plutôt que les gymnopédies, parce que il y a une élévation, il y a une tristesse qui est au fond une joie absolument pure, et puis il y a ce sous-texte permanent. D'ailleurs, c'est drôle parce que Satie annotait à destination de celui qui devait interpréter la partition, annotait avec des expressions du genre il faut ouvrir sa tête, ou il faut ouvrir son cœur, ou il notait parfois presque
sur la partition,
sur la partition, très luisant, par exemple, ce genre de
sur le bout de la langue aussi.
Voilà, et puis c'est quelqu'un qui a été lié à tout le monde, c'est Montmartre, c'est un quartier que j'adore, c'est mon quartier, c'est toute la bohème, c'est l'époque du Chat Noir, c'est la rue Cortot, c'est l'époque des hydropathes, ce club hydropathes, étymologiquement ceux qui détestent l'eau, parce qu'ils préfèrent l'alcool, évidemment, c'est mieux pour les danses macabres nocturnes. Ouais. Et puis, les gnossiennes, ce mot, on ne sait pas très bien si pour lui ça venait de la gnose, il s'intéressait beaucoup à la philosophie, il a été très embarqué dans les histoires du Sarpe-Ladan, qui est une sorte de dandy habillé en mauve, en violet, qui a écrit d'ailleurs une sorte de James Bond avant l'heure, qui s'appelle Curieuse, dont je vous conseille la lecture, une sorte d'aventure dans les cercles de l'enfer parisien, un garçon et puis une jeune princesse russe qui court mille et un dangers parmi à la fois la haute société, le Jockey Club, et puis les apaches des fortifications du côté des faubourgs de Paris. Mais c'est peut-être aussi les gnossiennes, peut-être Knossos, c'est-à-dire en fait, voilà, la ville du labyrinthe, du Minotaure. Pour moi, il y a tout le monde antique, ce merveilleux en fait du monde antique qui est chez Satie, et je l'adore, et je me sens bien quand je l'écoute, et ça me replonge. C'est pas tant l'Orient que cet exotisme chronologique, temporel, ce décalage qui nous envoie du côté des nymphes, dont on parlera peut-être tout à l'heure avec l'après-midi d'info.
Oui, et puis qu'on va écouter dans quelques instants, mais avec justement ces auteurs décadents du 19e siècle que vous avez étudiés lors
copains.
De votre DEA, là, avec Eric Satie, on est au bon endroit.
Ouais, je les ai adorés, tous ces... D'ailleurs, on rejoint... Ils étaient fous d'antiquité, de néoclassicisme aussi, le fameux mouvement décadentisme, où les hommes se maquillaient, où l'androgynie, le dandysme, tout ça, et surtout la nuit, la créativité, l'alcool, l'ouverture totale en fait à tous les genres, avant qu'on parle même de transgenre, à tous les genres, à toutes les époques, hybridant aussi les genres littéraires. Maurice Rollina au piano, chantant qu'il voulait fumer l'opium, les pieds nonchalamment appuyés sur un tigre, fumant l'opium dans un crâne d'enfant. Enfin voilà, liberté totale, micro-société, d'une liberté païenne exceptionnelle.
Et Claude Debussy participant aux soirées que Mallarmé donnait chez lui, rue de Rome, le mardi, d'où la naissance du prélude à l'après-midi d'un faune.
Thank you.
Le prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy par l'Orchestre Philharmonique de Berlin sous la direction de Simon Rattle. La poésie, la musique, c'est ce que je disais tout à l'heure, Debussy allait aux soirées que Mallarmé organisait chez lui. Et puis, ce lien entre Mallarmé et Debussy qui se tisse avec cette phrase de Mallarmé qui dit que l'idéal de la poésie pour lui est d'être suggéré par la musique elle-même, qu'il nous appartient de reconquérir et de paraphraser si notre propre musique frappée de mutisme se révèle insuffisante. Christophe Onodibio, j'ai pensé évidemment à vous qui écrivez. Cette œuvre, je ne sais pas à quoi elle correspond, mais elle semble complètement au centre de ce qui vous préoccupe, c'est-à-dire la littérature, la mythologie, oui. La musique.
Oui, puis le réveil, l'après-midi d'un faune, en fait, c'est ce que décrit... Le poème de Mallarmé, l'après-midi d'un faune, commence quand même par cette phrase qui, quand j'étais adolescent, me sonnait étrange en moi. C'est ces nymphes, je les veux perpétuer. Ces nymphes, je veux les perpétuer, parce qu'on est toujours obligé d'interpréter Mallarmé. D'ailleurs, il y a des livres entiers d'interprétation de Mallarmé.
Qu'est-ce que ça veut dire,
je veux perpétuer les nymphes? On peut tout y voir. En tout cas, c'est l'expression d'un désir qui s'élève. C'est ce faune qui se réveille dans la nature, qui regarde les grappes de raisin, qui voit les nymphes et qui, évidemment, met en activité son désir de faune, qui est un gros désir. Alors, c'est vrai que peut-être que j'aspire, en choisissant ce titre, qui est un titre que j'adore, tout calme et qui finalement prend de l'ampleur, c'est que peut-être que j'aspire à être ce faune qui se réveille dès qu'il se met à écrire et qui convoque les nymphes et croire au merveilleux partait de ça, c'est-à-dire qu'est-ce que ce serait un monde où les déesses et les dieux grecs sont là dans des habits tout à fait contemporains, que ce serveur de café est peut-être Dionysos, que peut-être qu'Athéna c'est une jeune fille, une jeune étudiante en architecture de 25 ans.
On aime bien l'imaginer partout.
Exactement. Et voir la mythologie de façon contemporaine est quelque chose qui me parle et qui me met en état de réveil et qui remet l'imagination en réveil, la sensualité aussi en réveil. On a besoin de déclencheurs. Et ce titre, en plus, c'est la danse. C'est vrai qu'on a, là, on parle de musique, mais pour moi, avant tout, c'est le ballet, c'est Nijinsky, ouais. C'est les costumes de Bakst, ces maquillages et ces costumes un peu barbares, avec ces taches noires. Et puis, le faune, c'est quand même l'hybridation entre l'homme et l'animal. C'est aussi retrouver sa part de nature. Et tout ça m'anime, voilà, me perpétue.
Alors, il semblerait que Debussy a concédé s'être inspiré des derniers vers ce poème que vous citiez. Et ça finit comme ça. Couple, adieu, je vais voir l'ombre que tu devins. Alors, évidemment, ça me fait penser à plonger.
Exactement. Oui, c'est ça. Exactement. Oui, plonger, l'ombre que tu devins, exactement, célèbre, qui passe par de la plongée sous-marine. Il y a aussi autre chose que vous faites référence à plonger, puisque Nijinsky, en fait, non pas Debussy, mais Nijinsky, disait s'être inspiré non seulement du poème de Mallarmé, mais d'une visite, en fait, qu'il avait faite au Louvre devant les vases grecs. De la galerie Campana. Campana, c'était ce grand collectionneur d'antiquités, et notamment de ces vases qui montraient les faunes qui poursuivent les nymphes, des sujets de l'Iliade aussi. Et c'est vrai que dans Plongée, il y avait une scène de visite nocturne au Louvre, où à la poursuite de l'hermaphrodite endormi, vous savez, cet homme et femme, le seul couple heureux que je connaisse, disait une vieille anglaise d'ailleurs, qui dort paisiblement et qui s'endort et qui va peut-être se réveiller. Et c'est vrai qu'il y a ça, ce côté nocturne, ce côté, cette Grèce antique qui se réveille parce qu'on y met un désir fort.
Un autre couple heureux, malheureux en l'occurrence, mais qui aurait pu être très heureux.
Sort cruel que nous
J'ai perdu mon Eurydice d'Orphée et Eurydice de Gluck, interprété par les musiciens du Louvre sous la direction de Marc Minkowski. C'était ma petite surprise
pour vous,
Christophe Onodibio. Oui, ça vous touche pas. Je me suis dit, voilà, on dirait que ce mythe d'Orphée Eurydice vous poursuit.
Ben oui, celui que j'ai essayé de réactiver à travers la foi plongée et croire au merveilleux, c'est-à-dire cette expérience de la perte. Orphée a eu beaucoup de chance, simplement, voilà, il n'a pas eu confiance jusqu'au bout, et peut-être parce que l'amour, finalement, n'est pas un sentiment qui met en confiance, il a eu la chance. C'est quand même sublime, c'est devant le spectacle de la nature qui l'attriste par ses chants que les dieux se disent quand même faut qu'on fasse quelque chose pour lui.
Vrai.
Il va avoir en fait la chance que aucun des personnages et des grands personnages de mythes antiques n'a pu avoir, pas même Ulysse, pas même Énée plus tard, c'est-à-dire retourner aux enfers. Vous avez dans l'Énéide ou dans l'Iliade, dans l'Odyssée pardon, la possibilité pour certains héros d'aller dialoguer avec les morts, ce qu'on appelle la catabase, la descente aux enfers, mais là il avait la possibilité de ramener celle qu'il aimait des morts.
Ça dulciné.
Et il se retourne et...
Il faut dire qu'elle y incite, elle. Hein.
Elle y incite, il se retourne, il prend Cocteau a merveilleusement d'ailleurs repris ce motif avec cet homme transpercé au moment où il se retourne. Les mythes sont des histoires dont on ne sait pas si elles ont réellement eu lieu, mais elles ont finalement pour nous beaucoup plus eu lieu que des histoires qui ont vraiment eu lieu. Et cette histoire de la perte impossible à réparer, finalement, anime, conditionne tout l'art, quoi, c'est-à-dire la musique, des opéras, des livres entiers, parce qu'au fond, est-ce que l'homme chante aussi admirablement que quand il a perdu ce qui était sa raison de vivre. Et c'est le plus beau des mythes pour ça. Et puis ça a donné, vous savez, Orphée a donné, on en parlait tout à l'heure, on parlait de paganisme, on parlait de religion, on pourrait aussi évoquer ce qui s'est passé récemment à Notre-Dame et l'importance aussi du spirituel et ce qui se passe en nous quand on voit un monument comme ça brûler. Mais Orphée a donné une religion qu'on appelle l'orphisme, une religion pleine de symboles, etc., où l'idée de résurrection était centrale. C'est-à-dire que c'est l'un des moments l'orphisme, donc ouais, ça vient de la musique et d'Orphée, de ce personnage de musicien, finalement une religion païenne où on commence à parler de résurrection, et c'est la première fois, et c'est absolument magnifique, parce que pour moi résurrection, ça évoque pas la religion, mais ça évoque l'art, la musique, la littérature. Donc merci pour cette belle surprise.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Et c'est tout l'objet de la littérature, à vous écouter, Christophe Onodibio. La littérature, c'est finalement, si je vous écoute bien, c'est pouvoir donner l'expérience d'un sens qui n'existe peut-être pas, mais qui nous permet d'aller explorer là où l'âme humaine ou la simple humanité n'oserait pas s'y risquer.
Ouais, je dirais dans le noyau, on parle du noyau de la Terre, par exemple, en fusion. Vous avez rappelé à l'orée de cette émission mes nombreuses activités, j'en rougis toujours un peu. Parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de choses et j'aime ça et j'aime être au contact du monde tel qu'il va et l'instantanéité du monde. Mais quand j'écris, c'est-à-dire à l'aube entre 4h et 6h30 du matin, c'est là que j'ai vraiment l'impression d'entrer dans l'essentiel, de redescendre le long d'un fil à plomb, puisque j'adore la plongée sous-marine, et d'être vraiment, de retrouver cet équilibre suprême que provoque le fait de descendre en soi. Et c'est vrai que la musique, moi j'ai besoin de la musique pour descendre en moi. Je coupe la musique dès que j'écris, mais j'ai besoin d'elle pour me véhiculer vers l'intérieur de moi, vers la mémoire et vers le souvenir des choses qui n'ont pas disparu mais que j'ai besoin de réactiver. Et la musique est plus puissante pour ça que la littérature.
Avec ces trois personnages que vous réactivez, enfin, vous avez réactivé au cours des deux derniers romans, Plonger et croire au merveilleux, César, Passe et Hector.
Thank you.
Miloš Karadžić interprète cette Asturias, opus 47, numéro 5 de la suite espagnole de Albéniz. C'est une évocation très personnelle, là, pour le coup. J'aime bien ça, Christophe Onodibio.
C'est personnel et c'est aussi lié, je sais pas dans quel sens d'ailleurs, mais ça fait référence directement au personnage que
c'est
vous mentionniez, Paz, qui est l'Eurydice d'ailleurs de cette Orphée. Qui est le héros du livre, je pense que c'est elle en fait l'héroïne, donc c'est
d'en plonger et croire au merveilleux.
Oui, bah voilà, d'en croire au merveilleux. Il s'agit de voilà d'essayer de penser qu'on est Orphée, mais malheureusement en vain. Mais d'en plonger, voilà, apparaît, c'est cette jeune photographe asturienne que César rencontre. Alors les Asturies, c'est vrai que c'est l'Espagne telle qu'on n'imagine pas l'Espagne, c'est l'Espagne du Nord, coincée entre la Galice, la Cantabrie et le Pays Basque. C'est une Espagne où on ne boit pas de vin, mais du cidre. C'est une Espagne de montagne et de mer en même temps. C'est une Espagne de pêcheurs, c'est une terre que j'adore. Il n'y a pas de corrida. Il y a des corridas, mais ça compte moins qu'ailleurs, moins qu'en Andalousie. Ce qui est paradoxal d'ailleurs, parce que là, Albéniz utilise des rythmes andalous, pas du tout asturiens. C'est celte, en fait, les Asturies. Donc, c'est plutôt de la cornemuse. On est vraiment dans l'impression d'être en Irlande ou en Bretagne. Et ce qui m'intéresse aussi beaucoup, et ce qui m'intéressait, c'est pour ça que je voulais qu'on écoute ça, c'est que, oui, c'est un peu l'évocation de ce personnage de Paz qui va chambouler, apparaître dans la vie de César et qui le retourne complètement, qui l'emmène dans les Asturies. C'est une région aussi qui me passionne parce que c'est la région des fameux dinamiteros, c'est-à-dire les mineurs asturiens qui ont été les premiers à se soulever contre Franco. Et comme ils maniaient en tant que mineurs les explosifs, ils ont été extrêmement difficiles à réduire et ça a été extrêmement sanglant la répression des Asturies. Et Capa les a immortalisés avec Garda Taro, d'ailleurs, qui est mort là, cette fabuleuse photographe. Tout ça est présent évidemment dans Plongée. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que Albéniz sous-titre Asturias, donc les Asturies, par ce nom, Leyenda, la légende. Et les Asturies sont une terre de légende celte. Il y a une créature qu'on appelle la Shana, la sorcière, la belle sorcière de ces montagnes. Et évidemment, les légendes, et notamment l'Antiquité, les légendes celtes, sont très présentes dans Plongée. Et on écrit aussi parce qu'on a envie, nous aussi, de créer nos propres légendes.
Alors, pour ceux qui ne connaissaient pas Christophe Onodibio, on le découvre ce matin, passionnel, passionné, grand amoureux. Ça tombe bien avec ce qui va suivre, une lettre célèbre d'Eugène Onéguine qui a inspiré Tchaïkovski. Ooh. Annette Trepko avec l'orchestre du théâtre de Mariinsky sous la direction de Valéry Gergiev dans cette ère de Tatiana, hein, de Jeanne Onéguine, de Tchaïkovski. Cette fameuse scène de la lettre, Christophe Onodibio, c'est tragique cette histoire parce que quand on parlait d'amour tout à l'heure, là on est vraiment dans l'amour...
Oui, tragique, je dirais absurde aussi, puisque là le problème de cette scène de la lettre, c'est que les dieux ne s'en mêlent pas, ils sont pas là. Ça serait tragique s'il y avait les dieux, mais au fond c'est juste la fermeture du cœur humain qui empêche la passion de se développer.
Qui sait, derrière tout ça. En tout cas, c'est vrai que c'est l'impossibilité de recevoir un amour
exactement.
Qui se livre dans sa plus grande...
Innocence, oui, en naïveté. Ouvrant, voilà. Alors c'est vrai que pour moi cette scène de la lettre qu'on vient d'entendre, moi c'est très lié à un ballet parce que j'adore les ballets. J'ai eu la chance de le voir le ballet de John Cranko en fait, donc Onéguine avec Hugo Marchand dans le rôle d'Onéguine, ce grand danseur, ce grand cygne noir d'ailleurs lui-même. Et je me souviens vraiment et j'adore en fait ce ballet parce que j'ai pu grâce aussi à mes diverses activités me promener dans le foyer de l'opéra, voir tous ces danseurs. Il y a rien, je trouve ça absolument sublime, ces corps qui s'entraînent, qui se forcent et où tout le travail doit disparaître pour produire de la grâce. L'effort doit être absolument invisible, comme un roman d'ailleurs, comme une belle scène dialoguée où on doit absolument pas voir le travail. Et ça, c'est une très très belle définition de l'art, qui est l'art n'existe pas sans effort, mais on ne doit jamais voir l'effort. Et Hugo Marchand, c'est ça, cette grande silhouette. Il était parfait en Onéguine froid, finissant tout seul et maudissant le ciel.
Vous parlez de littérature et
ah oui, Pushkin, on n'a pas dit, d'après Pushkin,
évidemment
le grand Pushkin.
Que je recommande à tous les auditeurs de lire, parce que c'est d'une beauté absolument extraordinaire.
Vert,
On va se quitter, Christophe Onodibio, déjà, avec une œuvre, on quitte le répertoire du 19e siècle, parce qu'on a quand même passé l'heure et demie à écouter de la musique du 19e siècle, on va écouter un peu de Jean-Philippe Rameau, la suite en La mineure. C'est pas votre goût à vous, en fait.
C'est un petit cadeau que m'a fait mon fils, en fait, qui est musicien, lui, qui
harpiste.
Fait de la harpe. Voilà, il a décidé tout seul de faire de la harpe. Moi, j'ai eu aucune éducation musicale et j'ai pas pu lui transmettre ça. Et en fait, il m'a fait écouter cette pièce de Rameau en me disant, regarde, en fait, on dirait, il a 10 ans, c'est presque les débuts du rock, c'est presque les débuts de l'électro, c'est le clavecin, c'est absolument génial. Donc, il veut se mettre au clavecin, on va voir ça.
Il aime les cordes.
Voilà.
Hein.
Et j'aime ce monde, en fait, où non seulement les pères transmettent à leurs fils, mais où les fils transmettent à leurs pères. J'adore
c'est extraordinaire.
Et pourvu qu'un monde comme ça perdure. Donc, je voulais qu'on écoute, voilà, Rameau, en son honneur.
J'espère que ça lui fera plaisir parce qu'on l'a choisi, nous, justement, dans une interprétation au piano, puisque Rameau espérait que l'on respecte son œuvre, mais qu'elle dépasse les limites sonores de son instrument. Donc là, le piano,
donc c'est idéal. Donc pas de clavecin, mais c'est pas grave.
J'espère que ça lui plaira. Au revoir, Christophe Onodibio.
Au revoir.
Merci.
Merci à vous.
un mot pour terminer cette émission en compagnie de Christophe Onodibio, qui était donc l'invité de Musique et Moi ce matin. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant cette émission sur le site de francemusique.fr à la rubrique Musique et Moi. Un grand merci à Julien Douminc qui était à la prise de son. Sophie Pichon a réalisé cette émission assistée de Marie Ferdinand. Je vous souhaite une très belle semaine à l'écoute de France Musique. On se retrouve dimanche prochain à 11h.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.